RCF. Bonsoir à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver. Une nouvelle semaine qui commence sur les ondes de RCF en région, RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardenne, qui commence à l'heure du magazine régional, j'entends bien, puisqu'on vous accompagne depuis ce matin à 7h avec différents programmes locaux. Une semaine un petit peu particulière parce que vous le savez, c'est la semaine sainte, il y aura de nombreux rendez-vous tout au long de cette semaine. On y reviendra largement dans nos programmes, à commencer par le magazine régional de ce soir. Mais avant cela, on vous donne un rendez-vous, que ce soit sur les ondes de RCF Cœur de Champagne ou sur les ondes de RCF Reims-Ardennes. Demain à 18h10, il y aura le décrochage en local, mais vous serez accompagné par différents programmes et notamment par la messe chrismale de vos diocèses en direct et en intégralité. Pour le diocèse de Chalon, ça sera sur RCF Cœur de Champagne. Pour le diocèse de Reims et des Ardennes, ça sera sur RCF Reims-Ardennes et ça sera également à retrouver en DAB+ sur RCF Champagne-Ardennes. Et justement, ce soir, on va parler de la préparation de la Semaine Sainte, non pas en France, mais en Espagne, et plus précisément en Andalousie. Notre chroniqueur Claude Ruiz regardera sur le monde avec nous d'ici quelques secondes. Vous entendrez l'émission Halte Spirituelle, à laquelle Monseigneur Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes, participe tout au long de cette semaine. Il est au micro de Véronique Alzieux. On parlera carême avec le père Didier Berthion, doyen à l'espace missionnaire de l'Argonne. On reviendra sur un week-end de mission, service, louange à Mouzon dans les Ardennes. Un week-end pour les jeunes, un week-end organisé par les jeunes aussi, notamment Ad Altum et les 18-35 ans. Louis Carton devrait être notre témoin par téléphone d'ici quelques minutes. Ça sera en deuxième partie d'émission. Et puis on fera un zoom sur une société Vitriat, Hafner Energy, avec son PDG Philippe Hafner, puisque cette très belle société va installer son bureau à Houston. Avant de commencer, on va tout de même saluer notre ami stagiaire à la rédaction, Marion Yérénard. Bonsoir Marion.
Bonsoir.
On vous retrouvera dans la page météo du journal, ça sera aux alentours de 18h30. Quelles sont les tendances, Marion, rapidement ?
C'est vraiment pas fou pour cette semaine.
C'est vraiment pas fou pour cette semaine, on aurait espéré de meilleures nouvelles. Nous, on va prendre donc la direction de l'Espagne ce lundi soir. Regard sur le monde avec Claude Ruiz, bonjour.
Bonjour.
Vous nous emmenez au soleil, Claude Ruiz, aujourd'hui. Le regard de cette semaine porte sur les préparations de la Semaine Sainte à la suite d'un voyage que vous venez d'effectuer en Andalousie. En quoi ces préparations sont-elles exceptionnelles ? Parce que pour raconter les coulisses de ce voyage, c'est quelque chose qui vous a particulièrement marqué, Claude Ruiz.
Oui, c'est ça. En dehors, par rapport à ce que vous avez dit, de quelques gouttes de pluie que pour la première fois sont tombées en Andalousie, donc depuis plusieurs mois. Donc,
c'était vraiment pas de chance.
C'est pas de chance, mais c'est aussi un élément qui permet de se promener. Donc, je crois que l'Andalousie est un peu symbolique. Pourquoi ces préparations sont exceptionnelles ? D'abord par le nombre. Les défilés sont prévus, vous le savez, dans la quasi-totalité des villes et des villages de l'est à l'ouest de l'Andalousie. Alors, vous connaissez les grandes villes, hein, on connaît les grandes villes, Grenade, Malaga, Cordoue, Cadiz, Huelva, Séville, bon, j'en passe et les meilleurs. Et là, dans le séjour que j'ai fait, j'ai vu qu'il y avait des défilés, des répétitions des défilés de la Semaine Sainte. Et c'est quelque chose qui est quand même assez très très important dans pratiquement toutes les villes et très actif avec beaucoup de jeunes qui participent à ces préparations. Alors, c'est bien entendu la multiplication aussi des activités parce qu'à côté des défilés, il y a les corridas, vous savez, parmi les plus prestigieuses en Espagne. Les défilés, c'est quoi ? Ben, les défilés, en réalité, c'est lors de la Semaine Sainte, le Vendredi Saint, le déplacement des saints et des saintes des quartiers à travers la ville pour aller vers la cathédrale la plupart du temps ou la basilique la plus importante. Donc, vous le voyez, à Séville, par exemple, c'est très connu, c'est la Vierge de la Macarena, et cette Vierge qui est le symbole, c'est une sculpture en bois du XVIIe, hein, une très très belle statue, et tous les quartiers envoient leur saint patron, en réalité, converger vers donc la cathédrale. Donc, il y a des cheminements, et il faut s'entraîner sur ces cheminements jusqu'à la cathédrale, ou l'église la plus importante. Les statues sont sur des chars ou portées à dos d'homme, c'est ce qu'on voit la plupart du temps, hein, et accompagnées, bien entendu, de pénitents. Et là, je me suis aperçu que lors de cet entraînement, il y avait énormément de jeunes et d'associations qui y participaient. Alors, bien entendu, Il n'y a pas que là, la participation débouche aussi pendant la Semaine Sainte, vous le savez, sur les fêtes. Le flamenco est connu, sur ce qu'on appelle les ferias, celle de Séville est très célèbre. Voilà, il y a deux ou trois thématiques qui sont essentielles.
Par rapport au temps de préparation, à l'organisation que vous évoquez, Claude Ruiz, il y a une question qui interpelle, mais c'est qui participe à la Semaine Sainte? On a l'impression que la mobilisation est complète.
Oui, c'est au moins ce qui m'a fait réagir et qui fait que je vous en parle. La particularité de ces pratiques, bien entendu, fait référence au fait que la pratique religieuse est un peu moins active, j'allais dire, comme dans nombre de pays européens. Mais là, il y a une participation considérable d'un maximum d'habitants, déjà au niveau des répétitions et de tous les âges. Et lors du défilé, donc, on va retrouver, par exemple, à Séville, on risque de retrouver plus de 100 000 personnes. Hein, donc,
énorme.
C'est énorme.
C'est
comparer.
Presque la ville de Reims qui défile entièrement.
Voilà, exactement. Et qui accompagne, qui danse. Donc, un long défilé, en plus, avec un rythme. Vous savez, comme les gens sont souvent des porteurs et marchent à pied. En plus, c'est très lourd, donc c'est souvent difficile. Et les gens viennent de, je dirais, de tous les faubourgs, de tous les quartiers. Et c'est structuré par des associations religieuses et ce qu'on appelle des confréries. Vous savez, des confréries qui aident sur le plan alimentaire, sur le plan du travail, etc. En Espagne, on appelle ça les cofradías. Et ces confréries qui assument les frais aussi du transport, etc. Donc, ces confréries sont des confréries de charité pour l'essentiel.
Cela signifie aussi sûrement qu'il y a une vitalité des vies de quartier, Claude Ruiz.
Ben, c'est ce que on peut en déduire. Les confréries sont le symbole du lien social en Espagne. C'est une sociabilité de proximité. Hein. On cherche actuellement à se dire comment on peut réunir les gens et comment ils peuvent avoir une idée un peu commune. Ben, ces confréries travaillent sur l'entraide sociale, l'entraide médicale, les personnes âgées. Et bien entendu, ça se fait au niveau de proximité. Et par conséquent, c'est sans doute le lieu le plus fort, donc une sorte de marqueur identitaire, si vous voulez. On est de tel quartier. Hein. Et bien entendu, on va se montrer un peu au moment des foires, des corridas, mais aussi au moment du défilé de la Semaine Sainte. Donc il y a une sorte de communication des différents groupes, mais qui permettent peut-être une certaine synthèse.
Cela permet-il une véritable intégration dans une région, par exemple, où les populations, alors les populations gitanes, les populations roms, sont importantes?
Oui, vous avez raison de souligner que justement dans ces quartiers, il y a à la fois des thématiques générales, mais aussi une multiplication des populations d'origine diverse. Il y a des migrants en grand nombre en Andalousie par rapport à d'autres régions d'Espagne. Et les associations spécifiques, elles correspondent à des quartiers. Par exemple, à Séville, il y a un quartier qui est le quartier de Triana et qui correspond en fin de compte à ce que vous avez dit, aux populations gitanes de Séville, mais tous participent. Hein. Ils participent d'abord peut-être par la musique, le flamenco, hein, les cabarets, etc. La guitare est présente, la danse aussi, la feria, ce qui est une sorte de grande foire, et puis les processions. Donc c'est un peu un moment de communion le plus fort où on oublie un petit peu les distinctions et qui, pour l'instant, peut-être de façon artificielle, je ne sais pas, mais est très, très présente, hein, la préparation des défilés. Il y a beaucoup de jeunes et ça, ça fait plaisir.
Par rapport aux éléments que vous nous présentez, Claude Ruiz, on peut parler d'une certaine pérennité pour ces manifestations dans l'avenir?
Oui, je crois que pour l'Andalousie, c'est essentiel. C'est une marque, en fin de compte, de l'élément régional, même si on va retrouver des défilés Semaine Sainte aussi bien à Salamanque que dans d'autres villes espagnoles.
Oui, j'allais dire, est-ce que la réalité andalou est la même partout sur le territoire espagnol?
Elle est plus vivante en Andalousie. Vous allez me dire, comme vous avez signalé au début, il fait plus beau, donc on peut défiler plus facilement hein, que si on est en Galice. Mais pour l'essentiel, c'est vraiment un marqueur. Hein, je crois que les différences sont un petit peu atténuées, au moins pendant cette Semaine Sainte. Mais bien entendu, on le retrouve à Valence, on le retrouve au Pays Basque, on le retrouve... Il y a une sorte d'art de vivre, hein, vous avez bien compris, la danse, le flamenco, la fête, on retrouve ça. Alors je crois qu'il faut éviter le piège touristique et comprendre derrière qu'il y a un art de vivre et peut-être une fonction sociale de cette Semaine Sainte et de ses défilés.
Merci Claude Ruiz de nous avoir présenté l'art de vivre à l'espagnol en Andalousie. À très bientôt Claude.
À bientôt.
Et à 18h20, toujours en lien avec la Semaine Sainte, tout de suite on vous propose en cette semaine une halte spirituelle avec Monseigneur Étienne Véteux. Ça sera tous les soirs. Il est au micro de Véronique Alzieux de RCF National.
La Semaine Sainte et la fête de Pâques à laquelle elle aboutit sont les moments les plus importants de l'année pour les chrétiens. Au cours de ces jours, on fait mémoire de la Passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Que s'est-il passé au cours de ces journées décisives, du point de vue des faits, mais surtout quel est leur sens profond d'un point de vue spirituel, et qu'est-ce que ça a changé dans l'histoire de l'humanité dont on nous dit désormais qu'elle est sauvée? Père Étienne Véteux, bonjour à vous.
Bonjour Véronique.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes évêque auxiliaire du diocèse de Reims. Je précise que vous êtes prêtre de la communauté du Chemin Neuf. Et c'est vous qui allez nous accompagner tout au long de cette semaine dans une approche, on va dire, autant que possible de ce qui reste un mystère. On reviendra probablement sur ce mot au cours de nos entretiens. Comment, à titre personnel, à la fois comme croyant et puis comme évêque auxiliaire aussi, vous abordez la Semaine Sainte? Dans quel état d'esprit êtes-vous en général?
Donc, d'abord, je suis heureux d'être avec vous, Véronique, et puis avec tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Ça va être, si je calcule bien, ma 59e Semaine Sainte. Et en même temps, il y a quelque chose que je trouve extraordinaire, c'est que c'est chaque fois nouveau. Et en particulier, puisqu'on parle de salut, j'ai l'impression de pouvoir entrer dans la Semaine Sainte, et c'est de nouveau le cas cette fois-ci, avec l'attente que quelque chose va changer et qu'il y a un point de souffrance ou de péché de ma vie que je peux remettre à Dieu et que, mystérieusement, puisque je le porte pendant toute l'année, là, c'est l'occasion pour m'ouvrir davantage et laisser Dieu agir davantage.
Vous êtes, disons, recentrer un peu, vous essayez de ménager votre intériorité, ou bien vous êtes aussi très pris par vos responsabilités d'évêque auxiliaire?
Alors, ce sera ma première Semaine Sainte en tant qu'évêque. Je ne sais pas trop ce que j'attends de ce point de vue-là ou ce qui va se passer. Mais c'est vrai que on dit de l'évêque, dans l'ordination de l'évêque épiscopale, quelque chose m'avait frappé. C'était le 9 septembre 23, il y a 6 mois. Et à un moment, il est dit que l'évêque est le grand prêtre. Et c'est vrai que c'est une dimension que j'ai vécue dans le sens de celui qui peut prier davantage ou porter dans la prière les personnes qu'il rencontre. Et j'attends ça aussi, c'est-à-dire je pense que je vais pouvoir intercéder pour toutes les personnes que j'ai rencontrées ces derniers mois et qui sont dans la souffrance ou qui attendent quelque chose. Mais il faudra que je me ménage des moments de prière. Ce que j'ai fait, c'est qu'il y a 2 semaines, je me suis arrêté 2 jours dans un monastère pour me préparer.
Alors, vous me tendez une perche en disant que vous allez pouvoir prier ou porter dans la prière des personnes en souffrance que vous côtoyez, que vous rencontrez. Pourtant, je le disais dans l'introduction, la Semaine Sainte qui aboutit à Pâques, c'est une espèce de concentré du salut des hommes. On nous dit que Dieu nous sauve à travers la mort et la résurrection de son Fils. Alors, on va entrer directement dans le vif du sujet avec vous. Le salut, est-ce qu'il y en a une définition théologique qui soit compréhensible du commun des mortels?
Alors, le mot salut, ça vient du latin salus, qui veut dire la santé au départ. Donc, c'est être protégé de maladie ou de quelque chose qui va mettre en péril notre vie et retrouver une vie saine ou une bonne vie. Mais le sens s'est énormément développé, notamment avec la Bible, avec le judaïsme et le christianisme, pour dire être libéré du mal et entrer dans une vie plus grande.
C'est une notion qui est déjà présente dans le Premier Testament?
Complètement. Le Dieu du Premier Testament se présente comme le Dieu sauveur. Alors c'est d'abord le Dieu qui sauve le peuple qui est en Égypte, qui est en esclavage en Égypte, et qui va l'amener à la terre promise. Donc c'est ces deux dimensions. Quitter l'esclavage, être libéré, et puis être amené à plus de vie, être amené à un lieu qui va être sécure, un lieu où ils vont pouvoir vivre, se déployer.
Le meilleur d'eux-mêmes.
Donner leur meilleur d'eux-mêmes, devenir eux-mêmes, devenir vraiment eux-mêmes. Et donc Dieu se présente comme le Dieu qui sauve. Après, peu à peu dans la Bible, on comprend que ce salut, il est aussi intérieur et il touche à la souffrance intérieure et il touche au péché et il touche à la mort.
Alors justement, on est sauvé de quoi ? Quand on est sauvé, c'est qu'à péril. Là, de quoi est-ce qu'on parle ?
Alors, ce que je viens de dire, en fait, c'était pratiquement une réponse, mais il faut peut-être que je le développe. Souffrance, péché, mort. Alors, souffrance, c'est-à-dire que Dieu nous promet de venir à l'intérieur de nos souffrances pour les apaiser. Le péché, C'est probablement le mal le plus profond, le plus grave, même si on s'en rend pas toujours compte. C'est ce moment où je me dis, j'aimerais faire ceci, j'y arrive pas. Comme dit Saint Paul en Romains 7, ce que j'aimerais faire, je n'arrive pas à le faire. Ce que je fais, c'est pas ce que je voudrais faire. Donc on crie vers Dieu en disant, Seigneur, libère-moi de ces colères, libère-moi de cette difficulté à aimer.
Quand vous dites Saint Paul Romains 7, vous faites allusion à la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 7.
Oui, merci. 7. Oui, effectivement. Et c'est dans le Nouveau Testament, la lettre écrite par Saint Paul aux Romains. Et en fait, pourquoi le péché est si grave? Le péché est grave parce que j'en suis responsable. Finalement, la souffrance qui vient d'ailleurs, elle peut me peser énormément, mais le péché qui va me couper de Dieu et des autres, c'est là où moi j'ai choisi.
On aura l'occasion, bien entendu, de creuser ces questions tout au long de ces entretiens. Si, on part du principe qu'on est sauvé. C'est pour, vous nous l'avez dit, accéder à quelque chose qui nous permette d'être nous-mêmes. Ça, c'était pour le peuple de l'Alliance, mais c'est toujours vrai pour nous aujourd'hui. C'est ça notre vocation ?
Alors, le mot vocation est excellent, dans le sens où Dieu nous crée pas complet. Il nous crée avec toute une vie devant nous, pour faire des choix, lui dire oui ou bien dire non, et du coup se déployer, devenir qui nous sommes. L'expression dans le christianisme, c'est devenir enfant de Dieu. Et l'idée, c'est derrière que on découvre peu à peu l'amour d'un Dieu qui nous aime autant qu'il aime Jésus, son fils, son enfant. Et du coup, on ne devrait pas avoir peur. Il y a quelque chose dans le fait d'être enfant de Dieu qui fait que, et c'est là qu'on devient de plus en plus soi-même, c'est-à-dire que j'entre dans une journée, j'entre dans la vie sûr de cet amour de Dieu, et même si ça ne veut pas dire que rien ne m'arrivera de mal, ça veut dire que je suis fondé solidement sur cet amour de Dieu.
Alors ça, c'est important ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que le salut, la mort et la résurrection du Christ, ce n'est pas une garantie tout risque.
C'est pas une garantie tout risque. C'est paradoxal parce que de temps en temps, et ça on peut pas trop savoir pourquoi et comment, de temps en temps il y a vraiment Dieu qui intervient dans une situation de notre vie par d'autres, par nous-mêmes aussi, en nous permettant de faire prendre les bonnes décisions, ou parfois miraculeusement comme ça, pour que l'on sorte de ces situations. Et puis dans d'autres moments, c'est plutôt une force qui nous est donnée, une paix qui nous est donnée pour traverser cette épreuve-là.
On pourrait dire que le salut, c'est en quelque sorte une libération.
Oui, c'est une libération pour nous libération de ce qui est mauvais, libération de la peur, pour nous permettre, probablement le plus important, c'est quand on dit libération, on est libéré de quelque chose et libéré pour quelque chose. Alors on est libéré du mal, de la peur, mais surtout on est libéré pour aimer.
En vue de quelque chose.
En vue d'aimer.
En vue d'aimer. Mais on voit bien que ça a beau avoir eu lieu il y a 2000 ans, à travers la mort et la résurrection de Jésus, on a l'impression que ça patine et que l'homme, l'humanité, au sens large du terme, a toujours autant de mal à vivre ce pour quoi elle est faite. L'amour est quand même encore bien mis à mal.
L'amour est bien mis à mal, mais peut-être qu'il n'y a en même temps jamais eu autant d'amour que maintenant.
Qu'est-ce que vous voulez dire
dans
par
le sens
là
où je sais que la situation du monde a l'air grave, et en même temps, je ne sais pas si qui d'entre nous voudrait vraiment vivre dans une autre époque, vivre en revenant en arrière. C'est comme si, alors peut-être qu'il faudrait que je l'explique davantage dans un de ces prochains jours de la Semaine Sainte, mais c'est comme si il y avait une croissance du mal et une croissance du bien en même temps. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que la Semaine Sainte, c'est un moment vraiment particulier où je peux voir, par exemple là on est en début de Semaine Sainte, le lundi, je peux voir quelle est la souffrance que j'aimerais déposer devant Dieu, ou le péché qui me bloque vraiment, ou la peur de la mort. On n'a pas beaucoup parlé de la mort, mais on pourrait davantage parler de la mort, pour remettre ça devant le regard de Dieu et lui dire, cette semaine, je t'offre cela, intervient particulièrement là-dedans.
Eh bien, on vous retrouve demain pour poursuivre ces entretiens, Père Étienne Véteux. Merci beaucoup.
Et demain, le Père Étienne Véteux, on le retrouvera avant la messe chrismale aux alentours donc de 18h10 sur les ondes de RCF Reims-Ardennes, suivi d'un entretien avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Puis à partir de 18h30, vous vivrez la messe chrismale du diocèse de Reims et des Ardennes en direct et en intégralité. Avec une petite minute de retard, ce soir, c'est l'heure du journal régional. Les titres de ce lundi 25 mars, de nombreux établissements de l'Académie de Reims ont reçu des menaces terroristes ce matin. Plus de peur que de mal, après les vérifications, les cours ont pu reprendre normalement. La Maison de l'Emploi et des Métiers d'Épernay organise à partir de demain 3 journées autour des formations et des métiers de l'hôtellerie, la restauration, le tourisme et le no-tourisme. Présentation.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Panique à bord ce matin dans l'Académie de Reims. Des élèves et personnels d'une dizaine de collèges et lycées ont reçu dans leurs espaces numériques de travail interne des messages de menaces d'attentats suite à un piratage du système informatique. Les forces de l'ordre ont procédé à des levées de doutes et les cours se sont poursuivis normalement. 12 établissements de la Marne, des Ardennes, de l'Aube et de la Haute-Marne étaient concernés. C'est ce qu'a indiqué le recteur de l'Académie de Reims, Vincent Stanek.
Alors, ce sont des messages de menaces, d'attentats islamistes contre les établissements scolaires.
Il y a plusieurs mesures. La première, elle est technique, c'est-à-dire que dès l'information reçue, nous avons bloqué les messageries qui ont été piratées. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, elle est de nature sécuritaire, puisque nous sommes mis en rapport immédiatement à chaque fois avec les forces de l'ordre et les correspondants de chaque établissement pour faire une sécurisation de l'établissement, un lien avec les forces de l'ordre et une levée de doute en fonction de la situation de chaque établissement. Et puis ensuite, nous mettrons à disposition tous les moyens en lien avec les forces de l'ordre d'accompagnement de chaque établissement, qu'il s'agisse d'accompagnement en matière de salut psychologique, si c'est nécessaire, et de renforcement de la présence des forces de l'ordre.
Il faut prendre ça vraiment au sérieux, même si nous avons affaire à des messages qui sont répandus sur toute la France, parce que nous avons un contexte de renforcement de la posture de Vigipirate. Nous passons à une posture supérieure, qui est la posture la plus importante, qui va nous obliger à mettre en place des mesures renforcées.
Contrôle visuel des sacs, contrôle d'identité de toute personne extérieure à l'établissement, renforcement de la présence de la police, renforcement du contrôle en général des établissements scolaires.
Le préfet de la Marne, Henri Prévost, confirme que tous les services sont pleinement mobilisés.
Toute menace doit être prise au sérieux, bien entendu. Après, lorsque l'on remonte le fil et qu'on retrouve les auteurs, vous savez aussi qu'une dénonciation fausse, une dénonciation calomnieuse est punie de peines qui sont sévères d'ailleurs, de peines de prison et de peines d'amende. Donc après, c'est l'affaire de l'enquête. Mais il est bien évident qu'en premier lieu, le plus important est de vérifier que tout le monde peut travailler dans de bonnes conditions et donc de réagir évidemment face à une menace. Après toute alerte, on procède selon les formes qui sont les plus adaptées effectivement à une opération de levée de doute qui permet ensuite de reprendre l'activité. Et par ailleurs, dans ce type de contexte, les forces de sécurité intérieure, les forces de police ou de gendarmerie selon la zone dans laquelle on est, sont particulièrement vigilantes et vont bien entendu intensifier les patrouilles et les contacts avec les chefs d'établissement. La levée de doute vise, comme son nom l'indique, effectivement à vérifier que autant que possible, il n'y a pas de risque dans les locaux, bien entendu. C'est recherché. Et puis ensuite, il y a une recherche de la source de cette information. Après, là, c'est l'affaire des spécialistes informatiques, de façon à pouvoir remonter le fil et réussir à trouver les auteurs, le ou les auteurs.
Des messages identiques ont été reçus dans d'autres académies comme à Strasbourg ou Nancy. Plusieurs établissements de l'Aisne ont été visés par des menaces similaires. Dans la nuit de vendredi à samedi, sont concernés dans l'Académie de Reims le collège du Blanc-Marais de Rimogne dans les Ardennes, dans l'Aube le collège Delaunay de Lusigny-sur-Barse, le lycée Chrétien de Troyes à Troyes évidemment, le lycée Joliot-Curie de Romilly-sur-Seine, le lycée Marie de Champagne à Troyes, le lycée Diderot de Romilly-sur-Seine dans la Marne, le lycée Georges Clémenceau, le lycée également François Arago, le lycée Stéphane Hessel d'Épernay, et enfin en Haute-Marne, le lycée Charles de Gaulle de Chaumont et le collège Montmorency de Bourbonne-les-Bains. Selon les dernières données de l'Agence régionale du tourisme, la fréquentation touristique est en hausse dans la région Grand Est. Une bonne nouvelle qui en cache une mauvaise, la difficulté des professionnels de ce secteur à recruter. C'est pourquoi la Maison de l'Emploi et des Métiers d'Épernay organise avec ses partenaires 3 journées autour des formations et des métiers de l'hôtellerie, la restauration, le tourisme et le no-tourisme durant 3 jours. Plusieurs animations seront proposées que nous présente Aurélie Henry, chargée de projet à la Maison de l'Emploi et des Métiers d'Épernay.
On va débuter donc le menu avec le mardi 26 mars avec un Zoom autour des métiers de la restauration. Donc il y aura différents ateliers qui seront proposés aux participants. L'idée c'est vraiment qu'ils puissent se tester au métier, par exemple au métier de serveur puisqu'on l'a fait au sein de la résidence Galice. Donc les personnes âgées seront nos clients entre guillemets. Il y aura un atelier animé par un chef du restaurant Bulle et Bonheur d'Épernay, un atelier flambage de fruits, un atelier vélo pour faire son smoothie, un atelier aussi pliage et service animé par le Greta de la Marne. Chaque atelier est animé par un organisme de formation, donc le lycée Stéphane Hessel, le Greta et Almea. Plus on a la chance effectivement d'avoir un chef cuisinier pour transmettre les valeurs de son métier.
Après la restauration, les métiers du tourisme et œnotourisme le mercredi 27 mars.
Avec un accueil de Mercier avec leur visite de cave en lien avec Avis Viticampus. Puis on découvrira l'avenue de Champagne et on finira par l'office de tourisme d'Épernay où elle nous présentera les différents métiers de l'office et notamment les compétences demandées avec l'importance des métiers du numérique au sein de la filière tourisme.
Et pour terminer, les métiers de l'hôtellerie le jeudi 28 mars, Aurélie Henry.
Avec la visite de l'hôtel Castel-Janson à Ailly. Donc les transports seront pris en charge au départ d'Épernay pour aller sur Ailly. Et l'idée, effectivement, c'est de pouvoir visiter les chambres, de voir le métier de réceptionniste, de gouvernant, gouvernante. Un petit peu toute cette diversité des métiers.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. Les animations s'adressent à tous, au public scolaire, aux étudiants, aux personnes en recherche d'emploi et aux salariés en reconversion professionnelle. Inscription et information auprès de la Maison de l'Emploi et des Métiers d'Épernay. Les résultats sportifs du week-end, c'est d'abord une désillusion. Basket en Ligue Féminine 2, battue 63-58 sur leur parquet par Montbrison. Les filles du Champagne Basket seront officiellement reléguées en National 1, la 3e division du basket féminin français la saison prochaine. Coup de chaud également pour les Flammes Carolo en Ligue féminine. Dominée à Bourges 89-68, les Ardennaises s'enlisent à la 9e place à 3 journées de la fin de la saison régulière. En Pro B, le Champagne Basket s'est redonné de l'air en dominant Antibes 96-68 et revient à une seule victoire d'une qualification en play-off. Ce samedi en volley, c'était la dernière journée de championnat de Ligue A. Assuré de finir leader, Chaumont s'est incliné 3-7-1 à Saint-Nazaire. Désormais place à la phase finale avec le quart de finale aller face à Paris qui se disputera dès demain soir. En football féminin, le Stade de Reims a dominé le Havre 2-0 en D1 Arkema et reste pour le moment 4e du classement, synonyme de qualification pour la phase finale de la compétition. 18h39, nouvelle semaine, même stagiaire, Marion Yernard est avec nous et nous présente la météo. Bonsoir Marion.
Bonsoir Alexis.
Quel temps dans le ciel en Champagne-Ardenne pour commencer cette semaine ?
Pour commencer cette semaine, je vous dirais que le beau temps n'aura duré qu'une semaine car il redevient gris. Au programme pour ce mardi 26 mars, 10 degrés dans la matinée et 12 degrés dans l'après-midi. Dans les Ardennes, l'Aube, la Haute-Marne, ainsi qu'à Chalon, Cézanne, Sainte-Menou et Vitry-le-François, il y aura des nuages dans la matinée et des averses qui commenceront en début de soirée. À Reims et à Épernay, aucune averse et il n'y aura que des nuages très gris. Demain, nous fêterons les Larissa. Bonne soirée à toutes et à tous.
Ça a l'air de vous perturber tout ça, Marion.
Oui, j'apprécie pas trop.
Bon, en tout cas, on vous remercie. On vous retrouve demain. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF. Et tout de suite, on parle carême avec le père Didier Bertillon, doyen de l'espace missionnaire d'Argonne, au micro de Jawed Saoudic.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Chalon. Charleville-Mézières.
Mon carême.
C'est ce qui nous prépare à la fête de Pâques.
qui est la fête de la résurrection du Christ et la promesse de notre propre résurrection.
Un instant de spiritualité.
Eh bien, je suis avec le père Didier Bertion pour nous parler de son carême. Bien évidemment, il est prêtre, mais je vais essayer quand même de lui demander de répondre surtout en tant qu'homme, en tant qu'être humain, en tant que création de Dieu. C'est quoi pour vous le carême ?
Le carême, pour moi, c'est un temps de joie avec un premier jour, le mercredi des cendres, qui me donne trois mots à vivre à travers le jeûne, donc changer ma vie. Donc je suis invité à changer un certain nombre de choses, moins regarder les télévisions, changer, pour dégager du temps pour les autres et dégager des moyens pour le partage. Le carême, c'est donc se donner des objectifs et puis les vivre. Les étapes, un peu pour faire le point, donc c'est la célébration dominicale qui me permet, à travers la parole de Dieu, eh bien, de me poser la question, est-ce que tu as été fidèle à l'engagement que tu as pris le mercredi des cendres ? Le carême aussi, en tant que prêtre, curé de paroisse, pasteur, c'est de voir autour de moi des hommes, des femmes qui se réunissent autour de la parole de Dieu, prendre le temps avec eux de lire, de méditer, de partager la parole de Dieu. Le carême, enfin, c'est avec les jeunes de la paroisse, tout particulièrement ce que je vis actuellement sur l'espace missionnaire de l'Argonne, avec l'aumônerie, un petit groupe d'aumônerie, qui a mis en place la roue du carême. Vous savez, les roues dans les loteries comme ça. Là, voilà. Donc, ils ont fait la roue, etc. Et ils nous ont marqué dans le grand cercle, eh bien, des objectifs à atteindre. Voilà, quand les paroissiens viennent à la messe le dimanche, on tourne la roue et on a un objectif. Eh bien, voilà, pour moi, le carême, cette année, a pris la forme de cette roue du carême que nous essayons de tourner, de méditer et de vivre.
Juste pour terminer, quelle serait la prière ou un passage de l'évangile qui vous tirerait le plus pour cette période de carême, qui vous aiderait, qui vous accompagnerait ? Laquelle, véritablement, qui vous y invite ?
Ah ben moi, ce qui me motive, c'est pas uniquement que pour le carême, c'est vraiment ce que j'entends à chaque fois que je baptise, et en tout particulièrement quand je baptise des enfants, là, la voix de l'Esprit-Saint, « Tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » Alors, quand je vois ce nombre d'hommes, de femmes, d'enfants qui nous disent « Personne ne m'aime, il y a quelqu'un, quoi qu'on fasse, eh bien, nous sommes aimés de Dieu. » Et cet amour, il est très concret, car ce Dieu d'amour, il est en attente pour que nous puissions nous tourner vers lui. Et il nous attend. Et là, on le voit bien dans les catéchèses du mercredi du pape François. Voilà, Dieu ne se lasse jamais pour nous attendre, tout particulièrement à travers le sacrement de la réconciliation et du pardon. Voilà. Dommage que ce sacrement soit un peu délaissé pour des raisons, parce que nous l'avons mal présenté pendant des générations, car c'est le plus beau geste d'amour de Dieu, il est là, il nous attend. Quelle patience, quel amour. Et nous, on passe à côté. Moi le premier, voilà. Il y a quelqu'un qui m'attend et qui est toujours prêt à me dire qu'il m'aime.
Merci beaucoup, mon père.
Ensemble, vivons ce désert avec Jésus.
Et les temps forts de notre diocèse étaient également ce week-end avec le week-end des rameaux et plus particulièrement une mission pour et par les 18-35 ans menée ce week-end du côté de Mouzon. Louis Carton est en ligne avec nous. Louis, bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie de la mission Ad Altum du côté de Sedan, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien cela ?
C'est exactement ça. Moi, je suis de Sedan. Je suis de la paroisse de Sedan.
Et vous avez donc participé en lien avec les différentes missions d'Altum du diocèse à ce week-end mené du côté de Mouzon. On situe pour les auditeurs un petit peu qui nous écoutent ce soir en région Champagne-Ardenne. Mouzon, ça se situe où, Louis Carton ?
Alors, Mouzon, c'est tout près de Sedan, c'est au sud-est de Sedan. Donc c'est au nord-est des Ardennes. Donc c'est en effet, on a réalisé cette mission avec la coordination de plusieurs paroisses et avec la coordination du diocèse de Reims-Ardennes. Donc on avait entre guillemets plusieurs antennes présentes. Donc on avait Sedan, Charleville, Rethel et Reims qui étaient présents et représentés entre guillemets ce week-end.
Qui a participé à ce temps fort? C'était uniquement les jeunes, parce qu'on parle vraiment d'un week-end de rameaux pour et par les 18-35 ans. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait que vous? Est-ce qu'il y avait, par exemple, lorsque l'on parle de mission dans le diocèse de Reims et des Ardennes, on entend aussi souvent les noms raisonnés de la fraternité missionnaire. On pense à Sœur Edwige Chanoux, au Père Vincent Dilizia, au Père Dominique Fleury, à nos diacres également qui sont mobilisés, la famille Mestralève, parmi d'autres. Donc, est-ce que vous étiez seul ou est-ce qu'il y en avait d'autres?
Alors, bien évidemment, on n'est jamais seul dans ces missions-là. Donc, en effet, on avait beaucoup de jeunes qui étaient acteurs principaux, disons, de cette mission. Mais on était bien sûr entourés par le Père Vincent et le Père Dominique, mais également par le Père Paul-Emmanuel et le Père Baptiste de Charleville, qui nous ont accompagnés, qui nous ont guidés, qui ont pu répondre à nos questions, qui ont pu aussi missionner avec nous. Et bien sûr, on avait aussi tous les paroissiens, paroissiennes qui ont pu nous accueillir en famille, qui nous ont préparé également les différents repas. Donc on n'était pas uniquement les jeunes, mais on était un bon groupe fraternel et solidaire sur cette mission.
Louis Carton, aller en mission, ça signifie quoi concrètement ?
Aller en mission, ça signifie faire découvrir aux autres, ça signifie aussi se mettre à nu face à des gens qu'on ne connaît pas du tout, avec qui on va écouter, on va échanger, on va partager des moments, on a partagé des moments très très forts parfois en toquant aux portes. Donc voilà, c'est quelque chose de qui se partage et c'est surtout basé sur l'écoute et l'échange avec toutes les personnes qu'on peut rencontrer chez eux, dans la rue. Mais quand je dis échange, c'est également échange entre nous. Donc voilà, on apprend, tout le monde apprend un petit peu dans ces missions-là. Et surtout, on fait découvrir et rayonner notre foi dans toutes les villes dans lesquelles on peut missionner.
Vous parlez de partage, vous parlez d'échange, vous parlez de rencontres. On aura l'occasion d'y revenir parce que vous allez nous en dire un petit peu plus sur ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, Louis Carton. Mais quels ont été les temps forts, quel a été le planning de ces 3 jours?
Alors, pour les plus disponibles, on se retrouvait tout de suite vendredi fin d'après-midi à Mouzon pour préparer, démarrer et lancer de manière dynamique notre mission. Donc avec des temps de prière, avec un bon dîner préparé par chacun. Donc, c'est un petit peu comme une auberge espagnole. Donc déjà un beau moment un petit peu de fraternité, de découverte vis-à-vis des participants, parce qu'on ne se connaissait pas forcément tous en effet en venant de différentes paroisses. Et ensuite on a eu surtout la mission qui s'est déroulée samedi matin et samedi après-midi. Donc des créneaux à peu près de 2-3 heures. Et avec un temps de partage avec tous les paroissiens à nouveau le midi et un déjeuner ensemble. Et donc toute la journée pendant notre mission, on invitait les gens surtout à deux moments. Donc il y avait tout d'abord l'échange et les échanges qu'on pouvait avoir avec eux, mais on les invitait donc à la veillée de miséricorde samedi soir et également à la bénédiction des rameaux et à la messe du dimanche matin à l'abbatiale de Mouzon. Donc c'était un petit peu les trois enjeux, on va dire, qu'on avait lors de cette mission.
Un programme riche, on l'a bien compris, et notamment marqué par les rencontres, le fait d'aller faire du porte-à-porte, d'aller toquer à la porte des paroissiens. Est-ce qu'il y a eu des rencontres marquantes, Louis Carton?
Alors oui, on a fait des rencontres très très marquantes. Donc moi j'étais en binôme avec Edouard, qui est de la paroisse de Reims. Et donc on a fait une rencontre marquante d'une jeune femme, a priori un peu éloignée de la religion catholique, de la foi, etc. Mais quand même dans une famille de culture, disons, catholique. Et finalement, on a échangé avec elle un petit quart d'heure, voire 30 minutes. Et à la fin de cet échange, je pense qu'on a peut-être réveillé une flamme ou rallumé la bougie au fond de son cœur. Et cette femme voulait faire baptiser ses deux enfants et certainement elle-même très prochainement. Donc c'est pour ça que j'ai donné absolument tous les numéros des prêtres que j'avais aux alentours pour qu'elle puisse trouver très bon destinataire à sa demande.
Et oui, c'est une très belle initiative et c'est vrai que quand vous nous partagez ce témoignage, ça nous met forcément les frissons, Louis Carton, davantage dans cette période de carême. Ça va être le mot de la fin pour vous aujourd'hui, mais si l'on comprend bien, si vous aviez un mot aux potes diocésains qui nous écoutent ce soir sur RCF, ce serait de leur dire, continuez une mission près de chez vous, vous aussi allez-y, vous aussi engagez-vous.
Exactement, vous venez de le dire. Si j'avais un mot ou une expression à dire quand on parle de mission, d'espace missionnaire, c'est allez-y. Allez-y, laissez-vous guider. Allez-y, laissez-vous porter. Vous n'êtes pas porté que par vous-même. On le sait très bien, vous avez Jésus, Dieu, l'Esprit Saint, les copains autour de vous, les prêtres qui vous entourent, les sœurs qui peuvent vous entourer, les paroissiens également. Vous n'êtes pas seul dans cette mission. Et il ne faut pas l'être d'ailleurs. Donc, c'est allez-y et faites cette expérience incroyable de la mission.
Merci Louis Carton d'avoir été notre invité en direct malgré les conditions, on l'a compris, un petit peu compliquées, on l'a cru comprendre en tout cas avec votre travail en même temps. Mais merci d'avoir pris le temps de témoigner et allez-y, on vous souhaite une très bonne fin de carême, une très bonne semaine sainte et en avance une très bonne fête de Pâques. À très bientôt.
Merci beaucoup, bonne semaine sainte et en union de prière.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Après ces nouvelles de nos diocèses de Vitry-le-François à Houston, c'est le pas franchi par une société familiale de Vitry-le-François, la société Hafner Energy. La société familiale est installée à Vitry-le-François, vous l'avez compris, depuis plus de 30 ans maintenant. Elle développe ses activités liées à l'énergie sur Vitry-le-François, Frignicourt et Marolles. Bientôt, elle sera présente à Saint-Dizier et à Châlons-en-Champagne. Elle a des bureaux à Nantes, Paris et Houston. Philippe Hafner, PDG, donc président directeur général de la société Hafner Energy, est avec Gérald Gaillet.
Philippe Hafner, bonjour.
Bonjour Gérald Gaillet.
Nous sommes aujourd'hui à l'entreprise Hafner Energy à Vitry-le-François, une société familiale qui existe depuis 30 ans. Mais non seulement elle existe depuis 30 ans, mais elle a vocation, on va dire, à s'élargir jusqu'à l'international. Et si vous le voulez bien, monsieur Hafner, nous allons commencer par Vitry. Quels sont vos projets?
Alors à Vitry, c'est très simple. D'abord, c'est à Vitry que nous avons notre siège social, c'est-à-dire les principaux organes de direction, à l'exception notoire de la technologie qui se trouve à Nantes, hein, puisque c'est mon frère Marc qui est le cofondateur et qui est le patron de toute la partie technologique. Mais sinon, la fonction direction générale et la fonction finance sont à Vitry. La fonction commerciale est à Paris et nous avons depuis quelques mois un bureau aux États-Unis à Houston. Ce qui est très important, hein, parce que c'est vraiment, les États-Unis représentent un potentiel de croissance très important pour la société. Et donc ce qui se passe à Vitry aujourd'hui, indépendamment du siège, nous avons aussi notre unité de production qui est basée à Frignicourt, à 5 km de Vitry-le-François. Nous avons racheté une petite usine, les établissements Jacquier, où nous avons 2500 m² de surface de production. Et nous sommes en train actuellement de réaliser notre unité de recherche-développement et dont notre centre d'essai de formation à Marolles. Les travaux sont en cours et nous envisageons une mise en service dans les toutes prochaines semaines.
Voilà pour Vitry. Vous avez des projets également sur Châlons-Champagne?
Alors à Châlons, à terme, Châlons est une ville qui présente un intérêt géographique, non seulement par rapport à Vitry, mais aussi une plus grande proximité de Paris, de Reims, une meilleure desserte ferroviaire. Et donc la marque employeur est plus facile à Châlons, donc c'est plus facile pour nous d'avoir effectivement des équipes d'ingénierie à Châlons, donc qui est très important, hein, parce qu'on est une société de technologie avec beaucoup de recherche développement, avec beaucoup d'études, et donc ça c'est effectivement l'étape à venir, hein, qui n'a pas encore été initiée à ce jour.
Et puis il y a Saint-Dizier, alors là c'est un gros dossier.
Oui, c'est ce qu'on appellerait, pour reprendre les termes actuels, ce que nous appelons une gigafactory, c'est-à-dire une grande usine. Cette grande usine, elle est destinée à nous permettre d'accompagner notre croissance et que nous ne soyons pas freinés, effectivement, par rapport au potentiel de marché qui est essentiellement un marché à l'international. Donc nous sommes à la croisée des chemins de la transition énergétique. Nous apportons des solutions qui couvrent pas mal de marchés, et évidemment en particulier l'hydrogène, mais pas que l'hydrogène. Nous avons aussi les carburants d'aviation durable, le méthanol, le gaz en remplacement du gaz naturel, un gaz entièrement renouvelable. Et donc nous avons des perspectives de marché qui sont considérables.
Alors pour le maire de Saint-Dizier, c'est surtout de l'emploi qu'il voit.
Le maire de Saint-Dizier, c'est pas seulement l'emploi, c'est l'emploi, c'est bien sûr la réindustrialisation. C'est le dynamisme de sa ville. C'est le fait qu'Hafner Energy est une société qui est très orientée sur à la fois l'international, mais on n'a pas vocation spécialement à vendre sur notre territoire. On a vocation à vendre et à installer nos installations partout en France, en Europe et dans le monde. Et donc c'est une opportunité de faire rayonner la ville au-delà de ses propres frontières.
Et dans le Grand Est, alors maintenant on va aller plus loin.
Le Grand Est, c'est notre région d'implantation principale, donc nous avons à cœur de développer des projets, non seulement au plan industriel, c'est-à-dire pour la production de nos équipements, mais aussi des projets de production d'énergie. Donc là, je ne peux pas vous en dire plus, mais nous avons de très beaux projets que nous espérons annoncer prochainement dans la région Grand Est.
Et puis je disais l'international, parce que vous avez votre bureau à Houston, ça fait plutôt penser aller sur la Lune, Houston, non ?
Houston, c'est aussi la capitale mondiale de l'énergie. Il faut quand même savoir, hein, c'est le lieu où on doit être quand on parle d'énergie. Donc c'est là où il y a toutes les grandes sociétés énergétiques ont des bureaux à Houston, hein, tous les champions français, Total Energy, Technip, ont des bureaux évidemment à Houston, des bureaux plus que des bureaux, hein, ce sont souvent même des immeubles entiers. Donc Houston, c'est vraiment l'endroit où on doit être pour tout ce qui concerne l'énergie, comme Hollywood pour le cinéma. Houston est un lieu incontournable quand on a une ambition internationale comme nous.
On va revenir à un événement qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, mais qui rappelait celui qui avait eu lieu il y a 4-5 ans, c'est la visite du président François Hollande.
Oui, alors on était effectivement très heureux de revoir M. François Hollande, ancien président de la République, revenir. C'est important pour nous. Il se souvenait très bien de sa visite alors qu'il était président de la République. Et c'est important parce que ça nous permet d'assurer un suivi. Même si M. Hollande n'est plus président en fonction, M. Hollande garde effectivement non seulement un réseau, mais aussi une capacité, je dirais, d'action qui est très forte. Et c'était pour nous beaucoup plus que symbolique. C'était une visite effectivement que nous apprécions tout particulièrement.
Il y a quelques semaines, vous avez signé un contrat avec les États-Unis.
Oui, alors nous avons établi ce qu'on appelle en anglais un MOU, Minute of Understanding, donc c'est un accord de partenariat avec une société qui développe une plante assez extraordinaire, hein, une société qui s'appelle Exas, et cette plante est une plante qui est destinée à pousser sur des terres marginales, sans irrigation, sans apport d'engrais. Les terres marginales, ce sont toutes les terres qui ne sont pas exploitées, et qui ne sont pas, où il n'y a pas ni forêt, ni rien. Ce sont souvent, par exemple, des bords de route, des zones de captage d'eau, des terres polluées. Et ça permet effectivement de cultiver des biomasses avec un excellent rendement. Donc, comment ça se traduit, un excellent rendement? C'est tout simplement, la plante, elle va capturer du carbone de l'atmosphère. Hein, donc la plante, c'est une des meilleures façons de capturer le CO2, finalement, qui est émis par les énergies fossiles. Et le rendement s'exprime par un meilleur taux de captation du carbone. Et ces plantes, elles ont une vocation qui est énergétique et destinée donc à être convertie en gaz renouvelable, notamment en hydrogène renouvelable.
Voilà qui nous permet de mieux comprendre le fonctionnement de la société Hafner Energy. Même s'il y a bien d'autres secrets, Philippe Hafner, le président directeur général, qui était au micro de Gérald Gaillet de RCF Cœur de Champagne, la société familiale Vitriat Hafner Energy prévoit d'installer des usines et des bureaux à Saint-Dizier et à Châlons-en-Champagne dans les mois à venir. On voit que cette société est en train de s'installer. Ainsi se referme le 18-19 en Champagne ce soir. Merci Marion d'avoir été avec nous.
Mais de rien.
Demain, on vous met un petit peu au repos. Vous serez à contribution de nouveau à partir de mercredi.
Exactement.
Parce que demain, c'est un rendez-vous qu'on a annoncé sur les ondes de RCF Cœur de Champagne. Vous verrez la messe chrismale du diocèse de Châlons sur les ondes de RCF Reims-Ardennes à partir de 18h10. Toujours, vous vivrez la messe chrismale du diocèse de Reims et des Ardennes en direct et en intégralité. Prise d'antenne 18h10. Pourquoi ? Parce qu'on retrouvera le numéro de Halte Spirituelle avec Monseigneur Étienne Véteux, évêque auxiliaire de notre diocèse, au micro de Véronique Alzieux de RCF National. Et puis vous entendrez une interview de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, mené par Jean-Pierre Benoît, qui nous parlera de l'actualité diocésaine. Voilà pour les rendez-vous à partir de 18h30, vous l'avez compris. Donc la messe chrismale en direct, en intégralité, avec tout le dispositif technique, Thierry Delis, Fabrice Gironet. Ils seront bien évidemment mobilisés sur le pont. Je crois même qu'il sera assisté par un jeune qui s'appelle Dylan, qui nous rejoindra dans cette aventure. Tout de suite, l'information nationale. Et puis on se retrouve demain dès 7h pour l'information locale. Très bonne soirée en compagnie des programmes de RCF.